Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Quelles sont les dispositions légales sur concernant la liberté provisoire? Vous savez, les jeunes gangsters des rues de Kinshasa, appelés communément Kuluna, sont souvent relâchés après leur arrestation. Certains bénéficient de la liberté provisoire obtenue de manière irrégulière, d'après les informations reçues. Alors, quelles sont les conditions requises pour bénéficier d'une liberté provisoire? Nous recevons dans ce studio M. Ghislain Mouéou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa Gombe. Et nos meilleurs voeux pour l'année 2013.
Merci. Je profite aussi pour les transmettre et les présenter à tous les auditeurs de Radio Capi, sans oublier la famille judiciaire et les amis et connaissances. Et sans oublier aussi ma petite famille.
Bien. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la liberté provisoire. Qu'est-ce qu'on entend par liberté provisoire?
Oui.
Pour commencer.
Oui, pour commencer, la liberté provisoire, c'est juste une mesure qui est prise par une autorité judiciaire. En l'occurrence, elle peut être prise par le magistrat instructeur, soit par le juge. Et ici, c'est l'occasion pour moi de pouvoir rappeler que ne peut bénéficier de la liberté provisoire que quelqu'un qui a été placé en détention préventive au terme de dispositions de l'article 27.
Mais c'est quoi la détention préventive?
La détention préventive, c'est le fait de pouvoir priver la liberté à quelqu'un à l'occasion d'une instruction judiciaire, et cela d'une manière préventive, dans le temps que l'instruction puisse prendre fin et que sa cause soit fixée devant le tribunal compétent. Le parquet a les prérogatives de pouvoir, lorsque quelqu'un a fait l'objet de poursuites judiciaires qui peuvent commencer à partir de la police, le policier a 48 heures pour garder quelqu'un à vue. Après la garde à vue de 48 heures, celui-ci a l'obligation de pouvoir déférer cette personne devant le parquet. Et lorsque la personne est déférée devant le parquet, les magistrats instructeurs, si pas le même jour qu'il reçoit le dossier, mais le jour suivant, il devra décider du sort de cette personne qu'il a entendue sur procès-verbal. Il doit l'auditionner. Quand il a fini de l'auditionner, il devra faire un rapport au procureur de la République. Soit il relaxe, il propose la relaxation de la personne, soit il propose à son chef hiérarchique la mise sous mandat d'arrêt provisoire de cette personne. C'est là où nous parlons de la détention préventive.
Alors, prenons les cas des jeunes Kuluna dont on parle aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'informations dans ce sens. Ces jeunes gens se battent en rue à l'aide des machettes, qui blessent les autres, tout ça. Voilà, ils sont arrêtés. Il y a des procès qui sont organisés. Ils sont envoyés en prison. Et quelques temps après, les familles s'organisent pour aller payer de l'argent et puis on leur accorde la liberté provisoire.
Oui, je sais qu'il faudrait que nous nous situions. J'ai dit la liberté provisoire. On peut en bénéficier pendant l'instruction préjudicielle. C'est lorsque le magistrat... D'ailleurs, il y a même une circulaire du PGR. Même à notre niveau au parquet, nous ne pouvons pas accorder la liberté provisoire à quelqu'un s'il n'a pas été présenté en chambre du conseil. En chambre du conseil, c'est à cette occasion où il y a un juge qui ordonne sa mise en détention préventive. Et sa mise en détention préventive est toujours ordonnée pour 15 jours, après que nous ayons placé la personne sous mandat d'arrêt provisoire. Dans les 5 jours qui suivent son placement sous mandat d'arrêt provisoire, la personne doit être présentée devant le juge. Et le juge compétent ici en matière de détention préventive, c'est le juge du tribunal de paix. Et celui-ci doit ordonner cette détention préventive. Lorsqu'il a ordonné la détention préventive, c'est à ce moment-là que la personne ne peut bien sûr solliciter la liberté provisoire auprès du magistrat instructeur. Tout comme il peut solliciter cette liberté provisoire devant le juge qui doit pouvoir ordonner cette détention préventive. Je ne voudrais pas entrer dans des petits des petits égarements parfois ou comportements qui frisent un peu une violation par moment de la loi. Et cela est dû peut-être à des raisons que chacun de nous peut ignorer en ce moment ici. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, étant organe de la loi, en restant dans les instructions et dans la loi, la liberté provisoire n'est pas à considérer, parce que nous suivons parfois certaines personnes qui croient que c'est un droit. Non, la liberté provisoire n'est pas un droit d'abord. C'est une faveur qu'on accorde. Et cette faveur, on vous accorde, lorsque celui qui vous accorde cette faveur, qui est le ministère public, il vous accorde cette faveur sous restriction, sous condition. C'est pour dire que les conditions, c'est lui qui vous les donne, qui vous les dicte, que vous devez respecter.
Et mais il y a certains qui ont demandé, la liberté provisoire, cela ne leur a pas été accordé.
Oui, vous pouvez demander la liberté provisoire, on ne vous accorde pas. Vous savez, la liberté provisoire, je vous ai dit, cette liberté provisoire est accordée lorsque la personne a été placée en détention préventive. Et on vous place en détention préventive, prenons les cas où vous avez tué, les cas d'un avortement ayant conduit à la mort, n'importe quel, pour des infractions dans
les cas
de
violence sexuelle.
Les cas de viol, d'ailleurs pour les viols, il est même interdit. Hein, le législateur n'a pas donné cette brèche-là, ces personnes-là ne bénéficient même pas ni de la libération conditionnelle, moins encore de la liberté provisoire. S'il y a certaines pratiques qui sont constatées, bon, mais il n'y a culpa à ceux-là qui les pratiquent. Mais ce qui est à pouvoir dire en ce moment-ci, la liberté provisoire n'est pas un droit, c'est une faveur. Et cette faveur est assortie des conditions. Et quand on dit liberté provisoire, la personne doit savoir que elle est en détention, mais sa détention est assortie d'une faveur qu'on appelle liberté provisoire. C'est ainsi que dans l'ordonnance qui accorde la liberté provisoire, on vous dit payer tel montant de la caution, on vous dit vous ne pouvez pas vous retrouver, vous devez vous présenter devant les magistrats, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le périmètre de port ou dans les frontières, notamment par exemple dans une gare,
ou l'aéroport.
On peut vous retrouver à l'aéroport ou au Beach Ngobila, ainsi de suite.
Bon, et la plupart des cas, on va poursuivre le temps d'accueillir des auditeurs. Théodore Mbouyamba est en ligne depuis Mbujimayi, Ismaël Mopoy nous appelle de Lubumbashi. Théodore, bonjour.
Bonjour, mon ami Daniel.
On vous écoute.
Je voulais juste poser une question. Je donne une observation pour faire voir qu'ici chez nous, en Bujima, nous avons des problèmes des enfants de marché.
Oui.
Qui se situent dans deux catégories. Il y a les enfants qui sont à l'intérieur du marché. Ils se disent commissionnaires en même temps. Ils trichent, ils dépassent les histoires. Il y a d'autres qui sont à l'entrée du marché pour désorienter les clients qui viennent du village, et puis ils soutirent l'argent, ils font beaucoup de choses, mais quand nous arrêtons ces enfants et nous les amenons à la police, ils sont vite relâchés, et quand on demande, on dit qu'ils sont en liberté provisoire. Et vous passez après une semaine, deux semaines, alors on les trouve encore dans les mêmes flagrants délits. Alors c'est pourquoi je pose la question, si la liberté provisoire est une faveur, est-ce qu'on peut l'accorder même à des brigands, à des suicidaires? Décider en cravate et décider de marcher.
Merci Théodore pour la question. Ismaël Mopoy de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, à l'idée de M. Mbouyamba de Mbujimayi, je veux savoir une différence. Puis, est-ce qu'on peut accorder d'abord une liberté provisoire? Par exemple, dans des échanges de coups et de blessures, la loi a déjà mis une sanction directement, par exemple, 6 mois jusqu'au-delà de l'emprisonnement. Et au titre d'exemple, à celui qui a blessé un autre, on l'arrête, puis on le relâche, on dit que c'est une liberté provisoire. Il s'agit de quel genre de liberté dont on peut accorder à un brigand. Et je cherchais aussi à savoir, par exemple, au titre d'exemple, à celui qui a une dette, on l'accorde une liberté provisoire, et à un brigand. Soit dans la prison, vous pouvez trouver quelqu'un aujourd'hui pour 2 jours, 3 jours, vous les relâchez. Et le lendemain, vous les verrez encore dans une même situation, dans un même endroit où il avait produit ce genre de drame. Comment on peut donner même l'écho à notre gouvernement et à la justice de notre pays? C'est ça ma simple préoccupation.
Merci Ismaël. Michel Kumpenena de Matadi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, j'allais juste poser une question, de savoir si, base de quels critères que nos législateurs donnent cette liberté provisoire aux colonels. Parce qu'il est arrivé à Matadi, ici à Matadi. Vous voyez un clowner qui fait des dégâts. 2-3 jours, vous le voyez, il circule vraiment dans cette liberté. Pourtant, parfois, ceux qui ne commettent pas, ils se retrouvent en prison. Mais celui qui a commis ces défis, il est vraiment en liberté. Mais il ne finit pas par là. 3-4 jours, il va encore recommencer. Donc ça devient comme si c'était un jeu entre eux et le clowner. Nous avons vu, moi, l'autre fois. C'est un exemple. J'ai vu, il y a quelque chose qui a été volé par un colonel.
Au marché?
Mais après, non, dans, bon, dans un centre là,
oui.
dans un parking,
oui.
le clowner revient, il confisque un téléphone. Et lorsque la personne qui a perdu ses biens a fait des enquêtes, nous avons retrouvé ces téléphones entre les mains des policiers. C'est ce qui veut dire, parfois, il y a un jeu qui se passe là. On dirait que ces clowners sont envoyés par eux-mêmes. Et lorsqu'il est arrêté, ce sont eux-mêmes les mecs qui demandent une liberté.
Bien, merci. Oui, merci Michel pour la. On a compris votre question. Jean Dambosch d'Ecolosi, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité et surtout meilleurs vœux à tous les auditeurs fidèles de la radio Capi. J'ai deux questions à poser à l'invité. La première est celle-ci. Je voulais savoir si l'État exige une garantie à la personne qui veut bénéficier de la liberté provisoire. Et la deuxième question, je voulais savoir. Lorsqu'une personne bénéficie d'une liberté provisoire et qu'après cette personne prend la fuite, qui va répondre à sa place devant la barre? Merci à vous.
Bien, merci. Blanchard Luana de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, est-ce que les droits congolais donnent-ils à un OPJ les prérogatives de pouvoir accorder une liberté provisoire à un inculpé pendant la garde?
Bien, merci. Alors, justement, où?
Oui, je commence par le dernier intervenant.
Oui.
La loi n'accorde pas à un OPJ le pouvoir d'accorder cette possibilité d'accorder la liberté provisoire. Je vous ai dit que la liberté provisoire n'est accordée que par des autorités qui sont identifiables. La première autorité à accorder la liberté provisoire, c'est les magistrats instructeurs. Les magistrats qui a eu à placer en détention préventive ou sous mandat d'arrêt provisoire le prévenu. Lorsque ces magistrats l'ont placé sous mandat d'arrêt provisoire, il doit le présenter en chambre du conseil et obtenir du juge de la chambre du conseil une ordonnance de mise en détention préventive. Et cette ordonnance a pour une durée de 15 jours. Et pendant cette période, l'inculpé peut solliciter. C'est pour cela qu'il n'y a pas de liberté provisoire d'office. La liberté provisoire, elle se demande. Et les magistrats n'est pas obligé de vous accorder cette liberté provisoire. La loi ne lui fait pas obligation. La loi lui donne la possibilité d'apprécier. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une faveur, ce n'est pas un droit. Le droit est consigné ou la garantie est consignée dans l'article 17 de la Constitution qui dit qu'il ne peut être la liberté individuelle est garantie.
Mmh.
N'est-ce pas?
Oui.
Et on vous dit que la liberté c'est le principe et l'arrestation c'est l'exception. Donc lorsque quelqu'un est arrêté, donc on s'est conformé non seulement à l'article 17 de la Constitution, mais aussi au contenu de l'article 27 du Code de procédure pénale qui donne les conditions pour placer en détention préventive sous mandat d'arrêt provisoire. Et lorsqu'on a placé sous mandat d'arrêt provisoire, ça s'ensuit qu'il faut la détention préventive. Donc le policier n'a pas le pouvoir d'accorder
l'OPJ n'a pas ces droits-là.
Bien. Et si c'est permis, nous pouvons tous en considérer que, ou soit de commun accord, il a fait évader le prévenu, hein, ou il a failli tout simplement à sa mission, et cela peut appeler à ce que le procureur, au terme de certaines de la loi par rapport aux attributions des OPJ, de retirer cette qualité, de retirer cette habilitation-là, parce qu'ils ont la qualité de par soit de par la loi, ou soit par la volonté de son excellence, monsieur, madame la ministre de la Justice actuellement. Donc, il est dit qu'on peut retirer cette habilitation pour permettre à ce que cet individu-là ne continue plus à poser ce genre d'actes. Et s'il est considéré comme un complice par rapport à une des questions en rapport avec le phénomène Kuluna.
Oui, alors parfois au phénomène Kuluna, Théodore de Mbuyamba de Mbujimaï nous dit qu'il y a des enfants de Kuluneurs qui font des dégâts, qui volent des histoires, et puis on les arrête et puis relâchés par après. Alors il se demande, est-ce qu'on peut accorder une liberté provisoire aux brigands,
voilà,
aux Kuluneurs?
Oui, il y a un autre problème qui intervient. C'est celui des enfants qu'on peut appeler les enfants de la rue ou les enfants qu'on trouve dans la rue, selon le cas. Ces enfants-là qui sont aux alentours du marché. Vous devez savoir que pour placer en détention préventive, on ne peut placer qu'une personne ayant commis un fait infractionnel et dont l'âge, et cette personne d'être âgée de 18 ans. Donc, toutes ces personnes-là, vous allez trouver que cette criminalité récente ici, c'est, elle couvre une tranche d'âge partant de 14 à 17 ans, au minimum. Alors, toutes ces personnes-là sont régies par une nouvelle loi, qui est la loi portant protection de l'enfant. Et cette loi-là ne nous oblige, ne nous donne pas le pouvoir, nous, de placer ces personnes-là en détention préventive. Cette loi a prévu des mesures. Et ces mesures ne sont ordonnées que par le juge d'enfant. Donc, et ni les policiers, ni les magistrats du parquet. D'ailleurs, quand un dossier concernant les mineurs arrive, nous, par moment, on ne pose même pas des actes.
Même si ce mineur a tué à coup de machette.
On transmet, on les défère devant son juge naturel. Parce que c'est une obligation constitutionnelle. Quand vous prenez l'article 19 du code de la Constitution, personne ne peut être soustrait de son juge naturel. Et ces enfants là-bas sont déférés directement devant le juge naturel qui est le juge d'enfant. Et celui-ci a des mesures à prendre. Lesquelles mesures? On peut placer l'enfant dans une maison
Soit le libérer tout de suite.
Là, s'il a moins de 14 ans, on le libère immédiatement. On ne peut même pas.
Mais il va encore rentrer là où.
Oui.
Là, auprès de ceux-là qu'il avait accusés pour les narguer. Je suis encore là.
C'est l'autorité administrative qui devra prendre ces mesures. Et l'autorité administrative doit pouvoir récupérer tous ces enfants, les éloigner de leur milieu criminogénique. Et les milieux qui leur favorisent la criminalité, c'est ces endroits-là, les marchés ou les abords des grands boulevards ici. Je vois régulièrement tous ces enfants ici
qui volent. Oui, Michel ici, nous dit à Matadi, un colonneur a volé un téléphone qu'on a retrouvé après entre les mains d'un policier.
D'un policier, voilà. C'est pour dire que je ne voudrais pas considérer ici le comportement du policier comme étant une participation criminelle, pour autant qu'on ne connaît pas dans quelles circonstances ce téléphone s'est retrouvé entre les mains du policier. S'il est établi qu'il y a des policiers qui envoient ces jeunes gens aller poser des actes comme ça, nous pouvons les considérer comme étant les auteurs intellectuels de toutes ces infractions qui sont commises par ces personnes, et on peut les dénoncer et ils doivent faire l'objet des poursuites judiciaires.
Voilà Ismaël qui nous dit à quelqu'un, il y a eu échange de coups, blessures, mais est-ce qu'on doit accorder la liberté provisoire à une telle personne?
Mais je vous dis que si ça ne dépendait que de moi, ça c'est mon point de vue que j'ai toujours défendu, que je suis magistrat. Ce pays a un problème. Le mouvement de population n'est pas contrôlé par l'autorité administrative. Alors, lorsque on ne sait pas contrôler le mouvement de population, de mon avis, j'ai toujours estimé que lorsque les faits sont cristallisés, ça ne sert à rien qu'on puisse accorder la liberté provisoire à cette personne-là. Parce que cette
On va poursuivre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Aloïs Sakaji qui nous appelle des Kananga. Aloïs, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
On vous écoute. Hein.
Oui, monsieur, je voudrais poser deux petites questions à notre invité.
Oui.
Bon, il a parlé de la détention préventive. Je ne sais pas si, en dehors de la détention préventive, il y a un autre cas dans lequel on peut parler de la liberté provisoire que la loi congolaise a prévu. Et de deux, quel est le coût que la loi congolaise a prévu pour une liberté provisoire dans des milieux surtout ruraux? Pour qu'une personne bénéficie d'une liberté provisoire, cela se passe toujours par des coûts exorbitants. Merci.
Merci. Kalala, vous êtes à Lumbashi, bonjour. Parlez un peu plus fort, Kalala. Quelle est votre question?
Bon, je voulais demander à l'invité. Il a dit que la liberté n'est pas une phrase à faire. Est-ce que c'est à faire? C'est moyennant quelque chose ou quoi? La décision de bien qui est dans le pouvoir. Les mouvements sont contrôlés ou malgré le pouvoir. Dans le conseil,
oui, on ne vous capte pas très très bien.
Oui, de toute façon, j'ai essayé de
comprendre. Il a parlé des mouvements.
Des mouvements, c'est les mouvements réels. Généralement, qu'est-ce qui arrive? En pratique, nous faisons ceci. Lorsque c'est le parquet qui a accordé la liberté provisoire, ou même lorsque c'est le tribunal qui accorde la liberté provisoire, selon les cas. Parce qu'ici, il y a un problème. L'ignorance dans laquelle berne notre peuple fait qu'à un certain moment, on ne sait pas distinguer est-ce que c'est le magistrat du parquet qui a accordé ou c'est le juge. Le juge peut arriver à accorder la liberté provisoire pour répondre à une des questions d'un de nos auditeurs.
Oui.
Et en dehors de cette détention préventive, est-ce qu'on peut encore... Oui. Les juges de fond au terme de l'article 45 du Code de procédure pénale, peut accorder la liberté provisoire. Et lorsque le juge de fond accorde la liberté provisoire, nous ne pouvons pas aller en appel. Le juge de fond, c'est le juge lorsque, vous savez, lorsque nous avons envoyé les dossiers en fixation et que le tribunal est saisi. À la première audience, la loi donne possibilité au juge qui connaît du fond de l'affaire à pouvoir apprécier la liberté provisoire qui peut lui être sollicitée par les prévenus. Généralement, nous nous opposons. Mais lorsque celui-ci accorde la liberté provisoire, le législateur ne nous a pas donné la possibilité d'interjecter appel. À ce moment-là, on ne peut interjeter appel que lorsqu'il lève la détention de cette personne. Alors, les restrictions... Dans la pratique, et c'est ce qui est faisable. Et coup de chapeau à nos amis de la DGM, chaque fois que nous accordons, et d'ailleurs c'est ça l'obligation qui doit être faite à chaque magistrat instructeur, lorsqu'on accorde la liberté provisoire, et à tous les procureurs néanmoins, si c'est le tribunal qui accorde la liberté provisoire, que des réquisitions soient prises, de sorte que les frontières soient, que ces personnes-là ne puissent pas se soustraire.
Donc la personne n'a pas le droit d'aller sortir du pays.
Il n'a pas le droit, parce qu'il faut maintenant un document. Comment les autorités de la DGM peuvent être informées? Dans la pratique, nous adressons des réquisitions. Nous demandons à la DGM que cette personne fait l'objet de poursuites judiciaires, tout ça. Il a bénéficié de la liberté provisoire, il ne doit pas quitter le territoire. Alors à ce moment-là, lorsque la personne se présente, on met la main dessus. Et lorsqu'on met la main dessus, donc il a violé une des conditions. Et
donc,
la conséquence,
à la justice.
La conséquence, on va les réincarcérer. C'est ce que la loi prévoit. On les réincarcère. On les réincarcère pour permettre à ce que le juge de fond puisse vider. Et s'il a été bénéficié, c'est pour cela que nous disons, les mouvements des populations n'étant pas contrôlés, on doit plus renforcer, c'est les magistrats instructeurs qui doivent plus accorder moins de libertés provisoires qu'on accorde à ce jour.
Et il y a des auditeurs qui sont revenus sur le coup. Combien doit-on payer pour obtenir une liberté provisoire?
La liberté provisoire, ce qui est peut-être malheureux pour notre État, c'est, nous l'avons toujours eu à le dénoncer, on aurait pu laisser à l'appréciation des magistrats et des juges le montant de la caution. Pourquoi? Parce que la caution, avant d'accorder la liberté provisoire, les magistrats peuvent mener certaines enquêtes, doivent d'abord se rassurer que cette personne ici dispose, parce que c'est une garantie, vous avez suivi l'affaire Desca ici, Strauss-Kahn, ce sont des millions qu'il a pu donner pour garantir qu'il ne peut pas se soustraire, n'est-ce pas? En l'espace de ça,
on va vous remettre cette garantie.
Oui, la garantie que vous donnez, la caution, est remboursable au terme de la loi. Dans des conditions qui sont prévues néanmoins, il y a des conditions qui sont prévues, lorsque vous n'avez pas bénéficié par exemple d'une condamnation, tout ça, la loi prévoit qu'on puisse vous rembourser
votre argent.
Cette caution-là.
Alimassi nous appelle, on va recevoir cet auditeur de Goma. Alimassi, bonjour. Alimassi, vous êtes à Goma, bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, Alimassi, on vous écoute, quelle est votre préoccupation?
J'aimerais savoir quelle est la catégorie des problèmes qu'on accorde à la liberté provisoire.
Merci.
L'article 32, je crois, du Code de procédure pénale qui donne cette possibilité-là au juge, n'est-ce pas? J'ai dit que c'est une faveur qu'on accorde. Mais néanmoins,
pour quel type de problème?
Écoutez, il faut qu'il y ait d'abord une infraction. Il faut qu'il y ait une infraction.
Quel genre d'infraction?
Oui, les infractions pour lesquelles on place la personne en détention préventive, la peine doit être supérieure à 6 mois de servitude pénale. Voilà. Mais lorsque les faits pour lesquels
quel genre d'infraction, par exemple? Violence sexuelle, viol?
En matière de viol, en matière d'assassinat, de meurtre, de détournement. Il y a plusieurs restrictions, même pour certaines infractions, qui font que même... Lorsque vous êtes condamné, vous ne saurez même pas bénéficier de la libération conditionnelle. puisque on suppose que pour ces infractions-là, comme le crime de sang, hein, quand il y a eu meurtre, tout ça, on ne saura pas vous faire accorder de certaines faveurs. C'est pour ça que nous disons aussi, même en matière de liberté provisoire, je vous ai dit que c'est une mesure qui est prise, une faveur qui est prise pour tout simplement permettre à ce que cette personne-là, qui doit donner beaucoup de garanties, mais ici chez nous, le coup c'est que Il y a une note ou un arrêté interministériel qui fixe ce montant de caution et qui devient maintenant l'objet de marchandage, alors que, en principe, le montant de la caution ne doit pas être discuté. C'est un montant
qui. Il n'y a pas
de marchandage dans cette question-là, parce que vous sollicitez la liberté provisoire, vous devez garantir que vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors, pour certaines personnes, lorsqu'on lui accorde la liberté provisoire, je vous dis, c'est un chèque en blanc qu'on lui accorde, cela veut dire qu'il se soustrait. C'est pour cela que je dis, un pays comme le nôtre ici, où nous sommes en train d'étendre vers la révolution de la modernité, avec comme possibilité que les mouvements des populations soient contrôlés, je pense qu'il serait mieux que, même par note circulaire de monsieur le procureur général de la République, que la liberté provisoire, les conditions soient plus renforcées par rapport au...
Parce qu'il y a un peu de laisser aller.
Bon, oui, que la loi soit un peu révolutionnée, ou que par note circulaire du PGR, qu'on essaie de voir si on ne peut pas réduire cette possibilité d'accorder la liberté provisoire à tout le monde de la manière que ça s'accorde actuellement, en se fondant sur le principe que la liberté et le principe et la détention
l'exception. Freddy de Kindou vous pose cette question. Je voudrais savoir quelle est la différence entre la liberté provisoire et la condamnation avec sursis.
Oui, la condamnation, la liberté provisoire, c'est une mesure qui est prise avant que le juge n'ait statué sur le fond. Mais la condamnation avec sursis, c'est une condamnation. On vous condamne et au lieu que vous fassiez la prison, on vous accorde un temps d'observation, vous faites cette prison chez vous. Et cette condamnation avec sursis est aussi assortie de conditions. Lorsque vous posez certaines actes,
Donc c'est une forme de liberté provisoire.
Ce n'est pas une forme de liberté, c'est une condamnation assortie d'une sursis. Mais la liberté provisoire, c'est une mesure qui est prise avant que le juge n'ait statué sur le fond. Or, le sursis, c'est une condamnation. Donc, on vous condamne, mais la condamnation est assortie d'un sursis. On vous dit, par exemple, vous êtes condamné à 6 mois de servitude pénale, assorti, par exemple, d'un sursis de 9 mois. Ça peut être 6 mois de servitude pénale, assorti d'un sursis de 3 mois.
Donc, vous allez purger la peine chez vous à la maison.
Oui, donc, vous êtes restreint. Et la peine, vous la purgez, c'est une condamnation, vous la faites chez vous à domicile. Et vos mouvements sont devenus un peu...
Sont très... contrôlés.
Oui, parce qu'il suffit tout simplement que pendant le temps de sursis, vous commettez une infraction, la mesure de sursis tombe, et vous purgez, vous allez purger l'effet pour la nouvelle infraction, et le temps que vous aurez dû passer pendant le sursis.
Voilà, un peu. Georges, on va terminer avec la question de Georges Amagi. Il dit ici à Amagi, la liberté provisoire est devenue une source de revenus. C'est un business. Et d'ailleurs, il nous révèle qu'un mandat d'amener là-bas vaut 500 dollars.
Bon. Je ne saurais pas dire oui ou non, mais si tel serait le cas, c'est une pratique qu'il faut décourager et dénoncer de plus en plus. Parce que les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Les magistrats sont aussi justiciables. Ça, peut-être la population ne le sait pas. Les magistrats sont aussi justiciables. Donc, si un magistrat va à l'encontre de la loi et des instructions, donc je considère ici qu'un magistrat qui s'égare de son serment qu'il a prêté avant d'exercer ses fonctions ou avant qu'il entre en fonction, ou le serment qu'il a renouvelé dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci, il sait très bien que tout manquement par rapport à son serment conduit à une faute disciplinaire et ça peut entraîner aussi des poursuites judiciaires. Donc, c'est question tout simplement de dénoncer. Mais nous disons que nous tous ensemble, la justice, ce n'est pas l'affaire des magistrats. La justice, c'est l'affaire d'une nation. Si vous voulez aujourd'hui avoir une justice au service de la nation, mettez les animateurs de la justice dans les bonnes conditions requises pour que cette justice soit au service de la nation. Mais si vous voulez une justice une nation qui veut une justice au service des individus, alors mettez ces conditions, mettez ces magistrats-là dans ces conditions-là, vous trouverez cette justice au service des individus.
Bien. Voilà. Je sais, moi, vous, magistrat au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Merci et à la prochaine.
Ok, merci.